Merci Soigny. Merci bien sûr à Yvan hein, de son invitation. C'est toujours un plaisir d'opérer justement un retour. Hein, je n'ai pas passé de frontière, hein, sauf à considérer qu'il y a encore une frontière du comté de Nice. Voilà. Je suis exilé en France. Et c'est toujours un plaisir de revenir à Nice, de revoir les amis niçois. Et plaisir et un honneur de partager la table avec Ralph Shore, qui a été aussi mon directeur de thèse. C'est pour ça que nous sommes ici quelque peu en famille. Et puisque l'on parle de direction de thèse, je vais tout de suite excuser Francesca Capecce, qui est une doctorante qui mène une thèse sous ma direction, enfin en co-direction avec un collègue italien. Et comme Ralph me le disait à l'époque, il faut savoir terminer une thèse, hein, reprenant ainsi le mot de Thorez, eh bien ça s'applique désormais à Francesca, hein, qui est en train de terminer sa thèse. Et donc, comme à l'époque, Ralph ne m'autorisait plus à sortir à un certain moment, eh bien là, je n'autorise plus Francesca à sortir de chez elle tant que sa thèse ne sera pas rédigée. Mais il n'en reste pas moins que c'est une communication que nous avons préparée tous les deux avec Francesca. Une communication qui, Stéphane a ouvert un peu la voie, s'inscrit un peu à contresens, hein, au sens propre du terme, puisque lorsque l'on évoque le passage de la frontière franco-italienne hein, dans un contexte migratoire, c'est souvent dans le sens Italie-France. Ce qui est tout à fait justifié hein, au regard de l'importance de la présence italienne en France. Hein. Faut-il rappeler ici que ces Italiens ont représenté la première nationalité étrangère en France jusqu'au recensement de 1968. Mais il convient cependant eh bien, de ne pas oublier que le flux n'a pas été unidirectionnel et que ces flux, dans leur bidirectionnalité, ont eh bien, structuré entre la France et l'Italie, pour reprendre le mot du géographe Gildas Simon, un espace migratoire ou, selon Tarius, un territoire circulatoire. Et l'historiographie a bien montré, au-delà des migrations saisonnières que rappelait Emmanuel tout à l'heure, qu'il y avait une grande fluidité hein, du mouvement migratoire, fait de va-et-vient et de nombreux retours. Alors, ces retours, ils sont très difficiles à évaluer statistiquement, hein, et Caroline Douki l'a bien montré dans un article récent, mais on estime quand même que sur les 26 millions d'Italiens qui ont quitté la péninsule entre les années 1860 et 1960, environ la moitié est rentrée en Italie. Et à l'échelle de la France, peut-être un chiffre, et ça va nous replacer dans la période qu'affectionne Stéphane, il y a au recensement de 1911 420 000 Italiens dénombrés en France. Or, depuis les années 1870, la statistique italienne, jusqu'à la Première Guerre mondiale, évalue le nombre de départs vers la France à 1 800 000. Donc 1 800 000 et au plus fort 420 000. Eh bien, ça signifie qu'il y a un mouvement permanent entre les deux pays. Alors ces motifs de retour, qu'ils soient d'ailleurs définitifs ou temporaires, sont variés, qu'ils s'inscrivent d'ailleurs dans le projet migratoire ou qu'ils répondent à des contraintes. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Alors ces retours et la narration du passage qu'ils suscitent, nous avons voulu, avec Francesca, les aborder dans un contexte particulier qui est celui de la période fasciste, période dont on sait à quel point eh bien, elle donne une coloration hein, particulière à la question migratoire, même si, là aussi, on pourrait en discuter, il y a des formes de continuité avec la période libérale. Alors pour Mussolini, il n'y a plus d'un côté des émigrants et de l'autre des citoyens. Et de fait, toute l'action du réseau diplomatique et consulaire, renforcée par les fascis à l'estero, hein, est eh bien, orientée dans le sens d'une mission de maintien, de renforcement des liens entre les migrants et, je reprends, vous avez vu, j'ai mis des guillemets, la formule de l'époque, la mère patrie. Et les fascistes s'y emploient d'autant plus en France qu'ils considèrent que dans ces pays, les Italiens sont les victimes, hein, c'est le terme qui est employé, d'une politique assimilationniste, hein, que l'on dit en Italie comme étant coercitive. Hein, ils seraient obligés de se naturaliser. Alors, pour maintenir justement les Italiens de France dans le giron de la mère patrie, le régime met en place eh bien, des dispositifs, hein, vous voyez ici la propagande, hein, pour qu'il y ait, on facilite les retours, d'abord temporaires, et puis on va voir ensuite définitifs. Ces retours temporaires, alors ils prennent la forme de voyages touristiques, notamment dans le cadre du Dopo Lavoro, qui était l'organisme chargé des loisirs. Il y a également les voyages de couches, hein, dont on sait peu de choses finalement, hein, que, ce sont, qui concernaient les femmes enceintes, hein, et que l'on appelait à venir justement accoucher en Italie, notamment à Bordighera, non loin de la frontière, pour que les enfants soient ainsi italiens de nationalité. Et puis, ces enfants, une fois plus grands, eh bien évidemment, ils font l'objet d'une attention toute particulière, à l'étranger comme en Italie, hein, au travers du développement d'écoles, mais aussi des organisations fascistes, hein, les fameux Balilla. Et c'est dans ce cadre que sont organisées des colonies de vacances estivales conçues comme des bains d'italianité, hein, et ce sont vraiment là des moments centraux dans l'italianisation et la fascisation des jeunes Italiens à l'étranger. Alors, on va commencer justement par ce récit, par la propagande du passage de la frontière de ces enfants, et puis ensuite, nous verrons eh bien, le même type de récit dans le cadre de la politique de rapatriement, cette fois définitif, qui est engagée par le régime fasciste à partir de 1938, et c'est d'ailleurs l'objet même de la thèse de Francesca Capecce que de travailler sur ces rapatriements à partir de 1938-1939. Alors, pour faire, compte tenu d'ailleurs du temps imparti, qui est déjà, j'imagine, bien entamé, pour tenir aussi compte des recommandations d'Yvan Gastaud, on a fait le choix de faire la part belle aux documents, hein, de mettre en valeur, et en particulier, deux documents. Et il s'agit ici de deux articles du journal du Fascio de Paris, mais qui a un rayonnement national, La Nuova Italia. J'aimerais quand même dire tout de suite, Stéphane l'a rappelé, que dans les deux cas, que ce soit les jeunes gens ou les retours définitifs, la frontière n'est pas à Menton. Hein, contrairement à l'image que tu as montrée, Yvan, au départ, la frontière, elle est là, elle est à la gare internationale de Vintimille, hein, depuis 1882, même si elle est entièrement rénovée. On retrouve d'ailleurs le style de l'architecture fasciste dans les années 20. Et la frontière, on va même voir, elle est plus symboliquement, elle se situe dans les rues de la ville de Vintimille. Alors, le premier document, le voilà, il date du 18 juin 1936 et il évoque le trajet et l'accueil à Vintimille des jeunes Italiens de Nice. On n'a pas choisi tout à fait hasard. Donc, l'article qui est ici figure en page intérieure du journal qui, vous le voyez, ce jour-là, met à la une, justement, hein, les colonies estives, hein, donc ces colonies de vacances. Et une telle mise en valeur n'est pas originale. Quand on regarde la presse de l'immigration italienne à l'époque, chaque été, hein, cette question des colonies fait la une de l'actualité. Alors, nous sommes ici, vous le voyez, l'année 14, hein, selon le calendrier fasciste, donc en 1936, et les colonies de vacances, elles, sont instituées en 1928. Hein, et il y aurait, dès 1928, 7000 enfants, hein, je dis il y aurait parce que ce sont évidemment des textes de propagande, hein, il y aurait 7000 enfants venus de toute l'Europe en 1928, le nombre double en 1929, et on serait à 25 000 en 1939, donc d'enfants, hein, se rendant en Italie pour les vacances, avec un fléchissement toutefois en 1936 en raison de la crise. Et cette crise conduit le gouvernement italien à diminuer ses subventions. Et au même moment, il faut dire que eh bien, ces Italiens sont tentés par les colonies françaises qui, elles, sont gratuites. Alors, parmi les colonies les plus emblématiques, il y a... Alors, on va voir ça. Il y a notamment le Campo Dux dans la région de Rome, que visite d'ailleurs régulièrement le Duce. Et puis, il y a cette colonie extrêmement intéressante. Je ne sais pas si la vidéo a suivi. Oui, vous allez voir donc ici la colonie du 28 octobre Ah, oh, c'est peut-être pas la peine, comme ça je continue de parler dessus. Nous sommes à Catolica, dans la province de Rimini. Alors, je vous la présente parce que vraiment l'architecture, elle est tout à fait exceptionnelle, unique. Elle reproduit une flotte de navires, ces navires justement, hein, qui sont le symbole de cette émigration. Alors, en l'occurrence, en 1936, ces jeunes Italiens de Nice, eux, se rendent à la colonie de Montana di Chiero Montenotte, qui se situe non loin d'ailleurs de la frontière, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Savone. Alors l'article, et je continue de laisser défiler donc, ce document, hein, vous l'avez remarqué, qui provient de l'Istituto Luce, hein, donc c'était les actualités cinématographiques, et l'article nous dit que l'Italie du fascisme et du Duce offre chaque année aux enfants de ses fils lointains le soleil bénéfique, vous le voyez, des plages charmantes et les sommets intangibles de la mère patrie. Hein, donc des colonies à la mer, à la montagne, avec des objectifs sanitaires. Hein. Et on lit d'ailleurs dans l'éditorial de la Nuova Italia, que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il s'agit là eh bien, d'opérer une régénération physique. Et on retrouve là, hein, Ralph le sait bien, toute la pédagogie totalitaire du régime, hein, mise en œuvre en vue de la formation d'un homme nouveau. Et vous l'avez vu derrière moi, d'ailleurs, l'organisation de ces camps de vacances est une organisation quasi militaire, à l'image de ce qu'étaient les organisations fascistes à l'époque, avec cette idée que les jeunes gens, donc, qui sont dans ces colonies, doivent, je cite toujours l'article de la Nuova Italia, devenir les instruments efficaces de la grandeur fasciste. Un autre texte de la propagande nous dit que chaque enfant qui vient parmi nous est un Italien éclaireur. Chaque train, chaque vapeur qui l'accompagne est une bénédiction pour nous. Et on voit donc hein, l'importance, la résonance et l'intérêt qu'il y a à accueillir ces enfants à la frontière, et on les suit dès leur départ. Hein, vous le voyez ici, alors c'est Il Legionario qui est le magazine, si on peut dire, des Fasci Italiani all'Estero, hein, et on voit ici le départ des jeunes enfants donc, de Nice, une organisation dont on nous dit qu'elle est minutieusement préparée, hein, c'est un régime d'ordre, faut-il le rappeler, et le départ se fait toujours de la Casa d'Italia. Hein, vous voyez ici, voilà, la Casa d'Italia de Nice. Alors, vous savez qu'il y a des Casa d'Italia partout à travers le monde où il y a des Italiens. Il y en a une cinquantaine en France. Celle de Nice, elle est inaugurée en 1931. Et ces Casa d'Italia, eh bien, elles rassemblent tous les organismes officiels de l'État, le consulat, mais aussi le Parti national fasciste et les organisations affiliées, dont les organisations de jeunesse, les associations subventionnées, hein, la Dante Alighieri, il y a souvent un petit hôpital, une chapelle, etc., etc. L'arrivée donc se fait, et là, je vais là aussi, en miroir de l'article de la Nuova Italia, eh bien, vous présentez, non, c'est là, eh bien, vous allez voir des images en 1936 de l'arrivée. Et là, pour le coup, on peut mettre du son. Surtout, je crois que nous avons beaucoup d'italophones parmi nous.
Popolo non si arresta a quanti vivono in Italia, ma viene estesa ai bimbi di quelli che vivono all'estero. Ecco l'arrivo a Ventimiglia di 200 fanciulli dei fasci di Francia, i graditi e piccoli ospiti del duce, amorosamente ricevuti e assistiti a cura della direzione generale dei fasci all'estero. Proseguono per Milano per essere inviati nelle colonie marine o montane.
Et ils repartent hein, vers leur colonie de vacances. Alors, il est intéressant parce qu'il nous donne à voir en fait ce que nous raconte hein, la presse de propagande. Tout d'abord, l'accueil est assuré par l'inspecteur de l'émigration et de nombreuses autres autorités. L'inspecteur de l'émigration, c'est en fait un fonctionnaire de la Direction générale des Italiens à l'étranger, qui en fait succède au commissariat général à l'émigration, qui avait été instauré par la loi Luzzatti en 1901 et qui avait pour vocation, justement, d'accompagner, d'exercer une tutelle, de protéger les émigrants. Ces jeunes gens sont accueillis au son, là nous ne l'avons pas entendu, des hymnes de la patrie joués par la fanfare des Balila de Vintimille. Je pense que ces hymnes constituent un moment particulièrement symbolique. Ils marquent la solennité, je vais y arriver, je vais aller trop vite moi aussi, de l'accueil, et lui confèrent une dimension à cet accueil véritablement national, aux côtés d'ailleurs du pavoisement, hein, puisque vous l'avez aperçu, il y a des drapeaux italiens partout. Deux hymnes, hein, la Marcia Reale, qui est l'hymne officiel de l'État italien, et bien sûr Giovanezza, qui est l'hymne du parti national fasciste. Hein, et depuis les années 20, ces deux hymnes sont joués systématiquement ensemble. Et on a là une expression musicale, symbolique, qui définit, je crois, une conception de l'italianité qui n'est pas seulement une appartenance nationale, mais une adhésion au fascisme. Hein, à ce moment-là, un bon Italien pour le régime fasciste, un bon Italien à l'étranger, c'est un Italien fasciste. D'ailleurs, les jeunes gens sont considérés comme appartenant aux organisations de jeunesse fasciste, hein, sous la tutelle de l'Opéra National et Balilla. Et vous voyez, vous avez vu sur les images, que l'une des premières choses que l'on fait, c'est ceux qui ne sont pas dotés de l'uniforme, eh bien on leur remet un uniforme des organisations de jeunesse. Et ils sont accueillis d'ailleurs par leurs camarades, par les leurs, hein, et notamment, on l'a vu sur ces images, cela nous est dit dans l'article, par la fanfare des Balila de Vintimille. Et nous l'avons vu aussi sur les images, un cortège, et là maintenant je vais citer l'article, formant un cortège avec en tête les autorités de la ville, ainsi que le secrétaire des Fasci des Alpes-Maritimes, les jeunes participants à la colonie estivale se sont rendus déposer une gerbe au monument aux morts. L'historien italien Emilio Gentile a bien montré que justement l'hommage aux morts constitue, est au centre du rituel de ce qu'il appelle la religion fasciste. On nous dit aussi, et on le voit, que les habitants se pressent nombreux à la gare, saluant, là aussi je cite, avec d'étourdissants applaudissements, nos jeunes gens. Il y a là l'idée d'une mobilisation, d'un consensus autour du régime. C'est-à-dire qu'on met non seulement en avant le sens de l'hospitalité des Italiens, mais aussi on met en scène le lien considéré comme indissoluble entre les Italiens de la péninsule et ceux de l'étranger. Alors, on retrouve un certain nombre de ces aspects cérémoniels dans le passage de la frontière des rimpatriati, des rapatriés. Et là, nous passons au deuxième article de la Nuova Italia du 9 mars 1939, qui lui raconte le départ toujours de Nice et l'arrivée à Vintimille d'un groupe d'Italiens dans le cadre du premier retour collectif organisé par la Commission pour le rapatriement des Italiens à l'étranger, une commission qui est présidée par le ministre des Affaires étrangères, le comte Ciano. Et le principe, c'est qu'en fait, il s'agit de mettre en place un rapatriement graduel des Italiens auquel on pourra assurer un emploi. Et c'est d'ailleurs, il y a là toute une mobilisation du patronat italien pour faire de la place pour ces Italiens venus de l'étranger. Et on pourra y revenir, autant vous le dire, ça n'a pas marché. C'est qu'au-delà justement de la cérémonie d'accueil, après, le sort de ces rimpatriati a été peu enviable pour beaucoup. Mais je crois que ce qu'il est important ici de souligner, c'est vraiment l'importance politique de ces rapatriements. Alors là aussi, on porte attention au départ dans les gares françaises, à toutes les cérémonies de salutation, de rassemblement, toujours dans les cases d'Italia. On va donner beaucoup d'importance aux villes d'accueil. Il n'y a pas que Vintimille. Vintimille accueille les rapatriés du sud de la France, mais les rapatriés... Alors, on n'a pas d'image, je suis désolé, mais on a des images, en revanche, de l'accueil des rapatriés italiens du nord de la France qui se fait à Turin, hein, tandis que les rapatriés en provenance de Corse, eux, sont accueillis sur les quais du port de Livourne. Alors, l'article du 9 mars, donc intitulé, comme vous le voyez, « Parmi les Italiens de Nice, concitoyens rapatriés », raconte donc la cérémonie. Alors, là aussi, le bureau des migrations, on va évoquer la célérité fasciste, hein, des premières démarches administratives, les cortèges dans la ville, qui sont des rues pavoisées, on les accueille au marché couvert de Vintimille, rempli de fleurs et de drapeaux, nous dit-on, on dresse des grandes tables pour un repas collectif, et ce jour-là, il y a même pour les accueillir, eh bien, le directeur des Italiens à l'étranger, Attilio de Cicco, hein, ainsi que de nombreuses autorités, y compris d'ailleurs Ralph, hein, l'évêque de Vintimille, qui va prononcer un sermon, hein, pour accueillir ces rimpatrietti, les hymnes, etc., etc. Je n'y reviens pas pour conclure. Il nous semble d'ailleurs avec Francesca que ces deux types de retours en fait répondent à un même objectif idéologique, mis en scène par ces passages de la frontière, c'est la défense et le renforcement de l'italianité, une italianité considérée comme menacée, comme étant en danger. Et finalement, au travers de la narration du retour, il s'agit de souligner aussi l'identification de l'italianité avec le fascisme. Et on l'a vu, hein, la mise en scène du passage de la frontière et de l'accueil présente ben, des éléments de similitude, hein, les acteurs qui participent, le déroulement, le défilé, les rues pavoisées, les hymnes, etc. etc. quoi. Donc on a vraiment ici une dimension rituelle, hein, de ce passage de la frontière, hein, donc, qui vise à exalter le sentiment de communauté. Et je terminerai en soulignant ici ce qui me paraît être un paradoxe, c'est que cette célébration du passage de la frontière confère à cette frontière une forte signification. Elle est la porte d'entrée dans l'italianité. Mais dans le même temps, les discours justement du régime tendent dans leur ensemble à effacer la frontière entre la mère patrie et les Italiens de l'étranger. Je vous remercie.